Père Nicolas Sautreau, bonsoir, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année de grâce de l'an 2022.
Oui, bonne et sainte année à tous. Une année de participation intense à la divine liturgie et particulièrement à la messe.
Que Dieu vous entende. À vous, mon Père.
Et nous sommes toujours dans le livre très célèbre de Romano Guardini sur la messe. Il reprend les choses en nous disant « Nous ne venons pas à l'église parce qu'il faut aller à la messe. » Ce serait guère plus que de promener son regard de manière indifférente sur ce qui se passe autour de moi. Voilà comment il définit la pensée, la psychologie de la personne qui irait à la messe simplement pour satisfaire à une obligation cultuelle, morale ou religieuse. Non, je viens pour accomplir avec le prêtre le service de Dieu, le service du Dieu vivant et vrai. Alors en disant « pour accomplir avec le prêtre », il introduit tout son propos, tout ce qu'il va essayer de nous faire toucher du doigt et du cœur en nous parlant de la participation, du mystère de la participation dans la liturgie. Toute la série de nos actes dans le bâtiment de l'Église, le fait d'y entrer, de s'asseoir, de rester dedans, les gestes, les attitudes, tout cela, c'est le service du Dieu vivant. Nous sommes servantes et serviteurs de Dieu, il nous a choisis pour servir en sa présence. Et tout ce que nous allons vivre est dans ce mystère de service, c'est-à-dire de culte rempli d'amour et rempli de lumière, de connaissance de Dieu. Et ce n'est pas vraiment le service de Dieu si nous ne venons pas ici avec un cœur présent et un esprit attentif. Pour parler de cette réalité de l'attention, Romano Guardini va revenir sur une grande pensée qu'il avait déployée dans son livre inaugural sur l'esprit de la liturgie en 1919, sur cette réalité de la liturgie inutile, la liturgie qui n'est pas faite pour être utile. Il nous explique que le recueillement est d'autant plus nécessaire, et on pourrait oser rajouter d'autant plus difficile, que l'action liturgique est privée de tout but pratique. Alors peut-être qu'il force un petit peu le trait pour faire son œuvre de bon prédicateur et aussi pour réveiller notre attention. La liturgie n'a pas de finalité pratique. Si je m'installe à une table pour écrire une lettre, je vais me mettre à fond à mon affaire, surtout si c'est une lettre importante, et je vais y accorder toute mon attention. Je vais m'impliquer profondément dans cette action parfois longue, parfois laborieuse et compliquée qu'est la rédaction d'une lettre qui va avoir un impact sur toute mon existence. D'une manière un peu moins forte, si je suis dans un atelier pour travailler, pour bricoler peut-être, eh bien je vais spontanément essayer de me concentrer pour parvenir au but pratique, pratico-pratique que je me suis fixé en commençant mon travail d'artisan ou mon bricolage d'amateur. Dans les deux cas, il y a un but à atteindre, très pratique, très concret, très précis, qui va me permettre de fixer mon attention. Je n'aurai même pas normalement à faire d'efforts, mon attention va être attirée par cette réalisation concrète. Dans le service de Dieu, il n'y a pas de but de cet ordre-là. Il n'y a pas, comme il a dit, de finalité pratique. Je ne vais pas chercher ceci ou cela dans la liturgie, mais je vais chercher à être. Je vais chercher à me tenir devant Dieu, à être là pour lui. L'action liturgique est une action éminemment désintéressée, un peu comme la création de toute chose par la très sainte Trinité est une action éminemment désintéressée. Je ne cherche pas à faire quelque chose pour moi-même. Je cherche à faire quelque chose pour l'autre qui est Dieu. Et la liturgie, ainsi, va devenir un acte rempli de signification. C'est le sens. La liturgie est remplie de sens, est remplie d'être. On peut dire qu'elle donne du sens à l'existence, qu'elle va même remplir du sens divin l'existence, et en cela, la liturgie devient sa propre fin. D'une certaine manière, elle est sa propre fin. Il n'y a pas à chercher de fruits concrets, immédiats à la liturgie. Le fait de participer à la liturgie est une finalité en soi. Je suis en train de vivre avec Dieu, de communier au Seigneur, d'être dans la louange, dans l'amour du Seigneur, et l'amour est son propre but. On est donc dans une catégorie d'action, une catégorie d'être qui est différente des autres, puisqu'elle ne s'inscrit pas vraiment dans une hiérarchie de fins, de choses à accomplir pour aller plus loin, pour aller plus profond, pour, d'une certaine manière, augmenter soit l'avoir, soit l'être. Il y a toute une partie de la liturgie qui est vraiment dans l'ordre d'un être devant Dieu, bien sûr comblant, bien sûr béatifiant, mais qui se suffit à lui-même. Il est là, je suis là, nous sommes en communion. Et c'est à cause de cette absence de but concret que le recueillement va nécessiter comme support cette réalité merveilleuse qui est l'amour, qui est le don de soi. Et en même temps, l'action liturgique ne peut pas être qualifiée d'action rationnelle. Ce n'est pas une action qui est gouvernée par la raison au sens du rationalisme des experts, de l'expertise savante de ceux qui savent comment utiliser une réalité terrestre. Ce n'est pas une action rationnelle, l'action liturgique est un comportement amoureux. Et le comportement amoureux, s'il veut s'inscrire dans la durée, doit vraiment être porté par le Seigneur, doit vraiment être porté par une grande ambiance de prière intérieure. Voilà une tentative d'explication de la part de Romano Guardini pour nous dire « Je sais pourquoi nous avons du mal à nous recueillir. Parce que nous sommes dans une catégorie tellement différente de toutes celles que nous connaissons, avec une vraie action, ce n'est pas simplement de la prière contemplative pure, l'infusion de la grâce par l'opération de Dieu, c'est une action qui doit se dérouler avec un début, un milieu, une fin, avec peut-être même après une évaluation de ce qui a été bien fait, de ce qui a été mal fait, et cette action nécessite un investissement personnel. Voilà pourquoi, dans l'action liturgique, le recueillement signifie strictement tout de l'action. Voilà pourquoi il faut vouloir et cultiver le recueillement. Faute de quoi, tout devient usé, pesant, tout devient négligence et même injure à l'amour de Dieu. Voilà, à nouveau, profondément averti. Donc, dans cette action qui n'a pas de but pratique, mais qui a un sens divin infini, nous allons entrer grâce au mystère de la participation. C'est un mot qui est arraché au génie de Platon, Romano Guardini a beaucoup lu Platon, beaucoup étudié, beaucoup travaillé, beaucoup enseigné Platon. Ça lui a permis de bien comprendre Saint-Augustin, mais ça lui a permis aussi d'évangéliser ce mot et cette pensée de la participation. Parce que nous ne sommes pas Dieu, finalement, la participation à l'œuvre de Dieu, la participation à la lumière de Dieu, est notre maximum d'être. C'est grâce à la participation que nous sommes heureux. Parce que nous n'avons pas assez de ressources en nous, pauvres créatures, même si le péché ne nous avait pas défigurés et fatigués et épuisés et arrachés à notre dynamisme pour monter vers Dieu, même si le péché n'avait pas été là, nous n'aurions jamais eu en nous suffisamment pour être heureux. Et c'est en participant au bonheur de Dieu que nous sommes réellement et profondément heureux. Eh bien, cette grande idée que la béatitude est une participation à Dieu, c'est grâce à cela que Romano Guardini revisite l'action liturgique comme étant, d'une manière très particulière, une participation. Il fait le résumé de ce que nous avons vu précédemment et il nous redit que nous avons beaucoup parlé de la parole liturgique. Mais la messe ne consiste pas seulement, ni même principalement, en des paroles. Il existe une partie de la liturgie où les paroles sont presque tout, c'est l'office divin, le chant des psaumes. Mais la messe, à la différence de cet office divin, de cette liturgie des heures, la messe est fondamentalement une action. Il y a une belle preuve scripturaire qu'il nous apporte. Il nous dit « Les paroles par lesquelles le Seigneur Jésus a institué la messe ne sont pas « Dites ceci en mémoire de moi ». Elles ne sont pas « Rappelez-vous de ceci en mémoire de moi » ou « Proclamez ceci » ou « Louez ce qui a été fait ». Non, le Seigneur Jésus dit « Faites ». « Faites ceci en mémoire de moi ». D'où la possibilité de cette belle expression de faire la messe, de faire l'Eucharistie. Oui, la messe commence avec une liturgie de la parole, mais la liturgie de la parole va s'arrêter pour céder la place à l'action du sacrifice eucharistique. Elle retrouvera un peu de ses droits après la communion, mais elle sera tellement baignée dans le rayonnement de la communion eucharistique, qu'elle aura une couleur totalement différente. Après la partie liturgie de la parole, nous sommes dans l'action. Les offrandes pour l'acte eucharistique sont préparées. Le mystère de la consécration eucharistique lui-même est accompli, et ensuite, le Saint-Sacrement est distribué, communié et consommé. C'est une action infinie de communier, de consommer le Verbe fait chair. Nous sommes vraiment dans une action, peut-être dans le sommet de l'action pour les baptisés confirmés. Manger le corps et le sang du Christ. Les baptisés n'ont pas seulement à écouter des textes, ou à en réciter certains, ou à chanter, mais il faut qu'ils participent à l'accomplissement de l'action sacrée. Et cette participation, encore une fois, suppose tout le recueillement dont nous avons essayé de parler les semaines précédentes. Peut-être qu'il peut sembler un peu difficile parler aujourd'hui d'une participation réelle à la messe. Et peut-être que les difficultés viennent du développement dans l'histoire de ce qu'a été la scène, la sainte scène du Jeudi Saint. On peut, sinon être certain, au moins supposer que la communauté liturgique primitive pour la messe était une sorte de cercle de disciples rassemblés autour d'une table. Nous savons que là, nous sommes dans la reconstruction archéologique. Donc il faut aller tout doucement avant de dire que ce sont des certitudes, des vérités historiques solides et fermes. Si nous imaginons que c'est la forme qu'avait la communauté eucharistique, la communauté en train de célébrer la messe, eh bien, nous constatons que cela n'était réalisable qu'avec des communautés très réduites de l'ordre de la famille élargie. Et concrètement, le temps pendant lequel cela a pu exister a dû être très court. Même la citation des Actes des Apôtres au chapitre 2e peut représenter la description de ce qui s'est passé pendant quelques années, au maximum quelques dizaines d'années. Et si nous imaginons comme cela la liturgie de la messe, alors oui, tous ceux qui sont là sont pris par l'accomplissement d'une action. Ils sont assis ensemble à une table et ils font un repas. Il y a cette expression en français, faire un repas. Et faire un repas, ce n'est pas seulement de préparer. Quand nous disons faire un repas, ça veut dire aussi rassembler des personnes pour prendre le repas. Peut-être que c'est la même chose qui nous est décrite dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 10 et au chapitre 11. Ce qui est historiquement certain, c'est que les communautés catholiques ont grandi très vite. Et elles ont résisté à cette croissance. Et pour résister à cette très grande croissance, il y a eu un développement de l'action liturgique. La messe n'a plus été un repas au sens strict. Et d'ailleurs, saint Paul explique bien que ça va être difficile de faire durer ensemble le repas des agapes, où on partage y compris et surtout avec les plus pauvres, et puis la célébration du sacrifice eucharistique. Il va falloir trouver une solution. Et la solution, c'est de styliser le repas, de laisser le mystère du sacrifice du Christ mettre sa marque sur la façon de célébrer le mémorial du Seigneur. On va avoir une expression très sacrée, très pure, et en même temps très surnaturelle du mystère lui-même. C'est l'apparition, pensons-nous, de l'autel, et cette assemblée nombreuse va devoir découvrir une manière d'agir. Parce qu'il y a un risque, lorsque l'assemblée devient nombreuse, de passer de l'action à l'attitude du spectateur. Et cela n'est pas possible dans le cadre de l'action liturgique. La manière dont l'action, la vie liturgique de la messe va pouvoir s'incarner, va pouvoir se réaliser concrètement au moins chaque dimanche, c'est la participation. Il va y avoir un peu comme deux grands espaces, le lieu de l'autel avec l'action qu'accomplit l'évêque ou le prêtre. Et puis le lieu de l'assemblée où ceux qui sont là savent qu'ils sont représentés par celui qui représente le Seigneur Jésus et que grâce à cette représentation, ils peuvent agir eux-mêmes simplement en participant à l'action de celui qui, avec ses mains et avec sa bouche, fait l'Eucharistie au sens le plus strict du terme. Ces espaces, plus l'assemblée est nombreuse, plus ils deviennent un peu disproportionnés, même si l'endroit où se vit l'action de l'Eucharistie, l'action concrète de l'Eucharistie, de la consécration eucharistique, est volontairement très spacieux, très beau et très décoré. Néanmoins, il y a toujours plus de participants à la messe que de présidents de la messe. Donc il va y avoir une espèce de disproportion, mais qui va simplement demander encore plus d'investissement de la part de ceux qui participent parfois peut-être d'un peu plus loin, à nos yeux peut-être d'un peu trop loin, à l'action même de l'Eucharistie. Alors, si nous voulons être très terre-à-terre, que va-t-il rester de très visible de cette participation à l'action? Pour Romano Guardini, dans cette forme, qui ressemble très fort à celle que nous pratiquons tous les dimanches ou tous les jours dans nos églises, pour Romano Guardini, il va rester le don des offrandes, le moment de l'offertoire, tout ce qui est préparation des offrandes, et le moment de la démarche vers l'autel pour la communion et la communion elle-même. Ce sont ces deux moments qui vont devoir être soignés d'une façon exceptionnelle afin de pouvoir entrer dans une vraie participation à l'action sacrificielle du Seigneur Jésus. Lorsque nous savons quels sont les moments à soigner, c'est plus facile. Parce que il faut réserver de l'énergie, il faut réserver de l'attention et du dynamisme pour ces deux moments précis pendant la messe. Notre expérience de messe à distance par les contraintes du confinement, notre expérience des messes grâce aux médias ou à Internet, nous montre bien comment, lorsqu'on est privé de la préparation des offrandes, du geste qui peut exister dans un certain nombre d'endroits, d'apporter les hosties, l'eau et le vin pour la célébration de la messe. Et lorsqu'on est privé, alors infiniment plus, de la démarche d'aller jusqu'à l'autel pour recevoir le corps du Seigneur Jésus, la participation devient forcément rationnelle, forcément plus intellectuelle, forcément plus désincarnée, et finit par nuire profondément, même à la vie liturgique. En dehors du fait d'être privé de la communion, il y a toute la vie liturgique qui commence à perdre de sa vitalité, qui commence à perdre de son dynamisme profond. Quel défi de participer de cette manière-là et avec une telle intensité au cœur de la célébration de la messe. Participer, c'est vraiment prendre part à l'action d'un autre. Cet autre, c'est Dieu, évidemment. Prendre part à l'action d'un autre. C'est d'ailleurs comme ça que nous parvenons à aimer notre prochain de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, en prenant part à l'action d'amour de la très sainte Trinité, en prenant part à l'action d'amour du Seigneur Jésus, notre Sauveur et notre Dieu. Prendre part à l'action d'un autre. C'est le lot des baptisés, prendre part à l'action du prêtre qui est en train de faire avec ses mains, avec son âme, bien sûr, avec sa parole, qui est en train de faire le sacrifice du Seigneur Jésus. Il y a presque une citation du Saint Curé d'Ars à ce moment-là du texte de Romano Guardini. Le Père Guardini écrit « Le prêtre n'est pas là pour lui-même, mais pour la communauté. » Le Saint Curé disait « On n'est pas prêtre pour soi-même, mais pour les autres. On doit célébrer la Sainte Messe pour Dieu, bien sûr, pour la Sainte Trinité, mais en même temps pour les autres, pour tous les autres, ceux qui sont présents là et tous ceux pour qui le sacrifice est offert. Les paroles que le prêtre prononce, les actions qu'il accomplit en vertu de la grâce de l'ordination sacramentelle, vont permettre au Christ d'amener à l'existence quelque chose qui est lui-même, c'est ça le grand mystère. À cette chose, tous sont appelés à participer, prêtres et fidèles. Le prêtre qui célèbre doit lui-même participer à ce qu'il célèbre. Certainement, une des requêtes, une des demandes des fidèles, que celui qui est en train de célébrer participe lui-même de toute son attention, de tout son amour, de toute sa foi à ce qu'il est en train de célébrer. Donc en cela, il est vraiment embarqué dans le même mystère que ses frères et sœurs baptisés, confirmés. Il faut participer à cette chose qui est l'Eucharistie, qui est l'acte eucharistique. Lorsque le prêtre arrive à correspondre à cette action, il ne le fait jamais pour lui tout seul, jamais de façon privée, il le fait pour tous, pour toute l'Église, pour toute l'humanité, pour toute la création. Et dans la création, il y a ceux qui ont le pouvoir de participer à cette action. Ce sont les créatures raisonnables, et parmi les créatures raisonnables, ceux qui ont reçu le caractère baptismal, ceux qui, par le sacrement du baptême, ont reçu ce sceau du baptême, ceux-là peuvent participer d'une manière différente parce qu'ils ont en eux cette réalité du sacerdoce du Christ communiqué par le baptême. Donc il y a dans l'ensemble de la création différentes possibilités de participer à l'œuvre du Christ. Ce que fait celui qui préside la messe dépasse de toutes parts sa vie personnelle. Lorsque Romano Guardini écrit cela, il continue à être un militant de l'effacement du célébrant. Ne se singulariser en rien lorsqu'on célèbre la messe. Ne pas chercher à être original, à être remarqué, mais effacer cette part de personnalité trop personnelle qui risquerait d'en faire ma manière de célébrer la messe. Parce que en étant dans cette volonté d'effacement, on rappelle que nous sommes simplement au service de la participation de tous à l'unique sacrifice du Seigneur Jésus. Tout est fait pour que tous les baptisés puissent avoir accès à cette participation. Maintenant, de façon pratique, comment parvenir à cet accès? Comment ouvrir la porte de la participation à l'action du Christ Seigneur? Avant tout, par la conscience de ce qui est en train de s'accomplir. Ce que Romano Guardini disait la semaine dernière, faire acte de présence, comme le dit l'expression en italien. Faire acte de présence, faire acte de conscience, être éveillé à ce qui est en train de s'accomplir sous mes yeux. Je suis appelé par le Seigneur à venir co-célébrer les mystères de la rédemption. Eh bien, je dois être attentif à ce qui se produit à proximité de moi, c'est-à-dire l'accomplissement liturgique et sacramentel de ces mystères de la rédemption du Seigneur. Pendant ces prières de l'offertoire, dont nous avons bien compris qu'elles sont un des deux moments clés de la participation. Les prières de l'offertoire sont là, elles sont accomplies. Eh bien, il y a un geste qui, aux yeux de Romano Guardini, en tant qu'ethnologue, en tant qu'anthropologue, que psychologue, que phénoménologue de la religion, a une grande importance, c'est le moment où le calice est découvert. Là, il y a aussi, de sa part, une vraie militance pour la récupération par le rituel catholique de cette réalité connue de tous les ethnologues et les anthropologues, le jeu du voilé et du dévoilé. La liturgie catholique a su récupérer et évangéliser cette intuition artistique, cette intuition culturelle et éthique du voilé et du dévoilé. Ce qui est voilé est précieux et on le dévoile de temps en temps ou on le dévoile uniquement pour telle ou telle catégorie de personnes. Bien le calice sur lequel il a déjà médité, cette coupe qui ressemble à une fleur sacrée qui est là pour recevoir non pas la rosée du paradis, mais la rosée du sang du Christ, le calice est voilé, il est caché. Il est caché, il est réservé jusqu'au moment où il va être utilisé pour faire la messe, pour faire le sacrifice. Et ce moment du dévoilement, on pourrait appeler ça l'épiphanie, ce moment de l'épiphanie du calice, puisque la patène est pratiquement invisible, donc tout va visuellement se concentrer sur le calice, ce moment du dévoilement du calice, de l'apparition du calice, est un moment qui est là pour dire « Attention, maintenant, je dois me dire à moi-même, ça y est, on prépare les offrandes qui vont servir à la célébration du mystère. » Il y a eu une préparation par la proclamation de la parole de Dieu. Et maintenant, il y a une autre préparation, plus physique, plus matérielle, qui me fait comprendre que nous sommes vraiment aux portes de la célébration du mystère eucharistique. Ce qui était caché et dévoilé, ce qui ne pouvait pas encore servir, va maintenant être mis au service du grand culte du Christ Seigneur mort et ressuscité pour moi. Avec ce geste extrêmement symbolique qui rejoint jusqu'aux profondeurs de notre capacité artistique et imaginaire, avec cette action-là, eh bien, nous rejoignons la préparation du repas pascal que le Seigneur Jésus a demandé à ses disciples. Il fallait aménager et il fallait aussi trouver la coupe, la fameuse coupe de bénédiction, la coupe sacrée qui allait permettre de célébrer ce repas de la Sainte Cène du Jeudi Saint. C'est quelque chose de semblable qui s'accomplit lorsque, par le service du diacre, ou le prêtre lui-même, la coupe du salut, la coupe de la joie, la coupe de la rédemption devient visible à nos yeux et est prête à entrer elle aussi en action. Et cela s'accompagne d'un mouvement qui peut être extrêmement concret, le fait d'apporter les pains de messe, d'apporter le vin de messe et l'eau nécessaire à la célébration de la messe. Peut-être quelques participants, ou bien les servants vont tenir le rôle d'ambassadeurs de l'Assemblée pour que, visiblement, soient réunis tous les éléments indispensables pour célébrer. Oui, tout cela peut se réduire aux très courts préparatifs du prêtre célébrant qui a la charge de déposer sur la pierre de l'autel ce qui va être consacré sur l'autel. Le prêtre reçoit et en déposant, il donne à Dieu. Il accomplit déjà un geste d'offrande. Et nous savons que nous sommes partie prenante dans l'achat, tout simplement l'achat des hosties et du vin de messe. Que c'est grâce à nos offrandes que la communauté qui célèbre la messe peut acheter ce qui est strictement nécessaire pour célébrer la messe. C'est le moment du partage grâce aux offrandes en espèces sonnantes et trébuchantes. Là, le père Guardini prend ses responsabilités. Il dit, il y a quelque chose qui s'ajoute au pain et au vin, c'est l'offrande d'argent. Nous éprouvons une certaine gêne à admettre cette forme d'offrande, surtout si nous pensons à la manière parfois totalement dépourvue de dignité dont les quêtes sont faites dans l'espace liturgique. Sujet extrêmement sujet à controverse, cette question de la signification de la quête, si elle en a une, et de la manière possible de sacraliser ce qui remplace le fait d'apporter chacun son tour, le pain nécessaire, la cruche de vin, le pot d'huile pour la célébration des autres sacrements. C'était des choses réelles, avec un visage, dit Romano Guardini, avec un langage. C'était tel pain, c'était tel vin, avec des qualités parfois très très différentes selon les familles qui offraient. Aujourd'hui, il semble qu'il n'y ait plus que la dure monnaie qui permette de participer à cette offrande. Est-ce qu'il faut se lamenter sur ce qui est perdu de symbolique? Est-ce qu'il faut essayer d'imaginer ou accepter les faits? L'argent est là, il représente ces choses-là. Au moins, on pourrait, telle est la suggestion de Romano Guardini, pas très mystique pour ce début d'année, on pourrait au moins préparer l'offrande à la maison en discernant ce qu'on va donner à la quête. Alors là, les choses deviennent quand même un peu plus spirituelles. Il faut le faire avec le cœur plein de respect envers Dieu et de charité envers tous. Il demande que, au moment où on prépare l'argent qu'on va donner concrètement, il y ait à la fois la préparation technique qu'on va donner, pièce ou billet, et une bonne pensée pour accompagner ce moment du choix de ce que l'on va donner. Et s'il y a cette bonne pensée, cette sainte pensée, alors peut-être qu'il y aura un vrai acte d'offertoire, un acte de charité au moment de la quête. Question, encore une fois, extrêmement délicate et sur laquelle chacun peut se faire sa religion. Voilà, bonne soirée à tous.
Père Nicolas Sautreau, un grand merci. Nous vous retrouvons la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, si le Seigneur le veut.